Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'économie collaborative, dont on a longtemps vanté les mérites, est-elle une impasse? Ils la mettent en accusation dans un livre qui paraît aux éditions Les liens qui libèrent. L'économiste Éloi Laurent propose de la remplacer par une véritable coopération. Il sera avec nous dans la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55. Mais d'abord, Miro, une comète dans la galaxie artistique. Quand je peins, je bondis toujours entre terre et ciel, disait le peintre catalan, à l'honneur d'une belle rétrospective au Grand Palais jusqu'au 4 février. L'étrange Monsieur Miro, pour en parler, le commissaire et historien d'art Jean-Louis Prat et le romancier Adrien Goetz, membre de l'Académie des Beaux-Arts, auteur des Constellations de Varengeville, sont nos invités à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Les gens comprendront de mieux en mieux que j'ouvrais des portes sur un autre avenir, contre toutes les idées fausses, tous les fanatismes. Miro, une œuvre lumineuse, mais aussi moins légère qu'il n'y paraît, reflet de la personnalité du peintre catalan. Derrière son regard malicieux, Miro cachait un tempérament plus sombre et révolté, comme le montre notamment un documentaire « Feu intérieur » à voir en replay sur Arte jusqu'à samedi. Bonjour à vous Adrien Goetz.
Bonjour Olivia.
Et bonjour Jean-Louis Prat. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Au premier regard, c'est vrai qu'il est facile de se laisser un peu piéger par la dimension enfantine des œuvres de Miro. Qui était-il réellement? Est-ce que cet univers-là, celui qu'il avait en lui et qu'il a retranscrit sur ses toiles, était vraiment si enfantin?
Vous savez, même André Breton avait pensé que la personnalité de Joan Miro était restée dans un stade presque enfantin. Et je dirais qu'il y a eu une erreur là-dessus. Enfin, bien sûr, on peut l'analyser de cette façon-là, mais c'est faux. Parce que il y a, du reste, bon temps, Miro n'a jamais voulu faire partie du groupe surréaliste. Il ne s'est pas laissé embarquer par le diktat d'André Breton.
Il était contre les dogmes, hein. Il voulait être libre.
Il était libre, du début à la fin de sa vie. Et je crois que l'exposition le démontre, avec une œuvre particulièrement novatrice, mais de bout en bout, durant cette décennie. Et il a toujours su être en relation avec la réalité. La réalité, c'est la réalité de son sol catalan. Et on le retrouve dans ce tableau qui a appartenu à Hemingway La Ferme, le premier, où il interroge entre terre et ciel ce qui est important pour lui. Et ce qui se révèle comme une partie de ses rêves, mais qu'il va prendre, qu'il va puiser dans la réalité.
La première impression, Adrien Goetz, n'est-ce pas, celle de Willem, le protagoniste de votre roman, Les Constellations de Varengeville, il dit, Miro, c'était pour lui l'artiste pour institutrice qui décore leur salle de classe avec des posters. Le seul rival, j'adore ce passage, c'est tellement juste. Le seul rival international de Miro, c'est le collier de nouilles. Elle torture les enfants inlassablement depuis au moins 30 ans, voire plus, en leur apprenant à faire du Miro en format papier peint, des petites vaches, des étoiles de mer, des insectes. Si on les laissait libres, elles, les institutrices, en feraient des rideaux de douche.
Oui, c'est affreux. Alors c'est pas, je ne prends pas ça à mon compte, c'est mon personnage qui dit ça. Et d'ailleurs, le pianiste qui est en face de lui rectifie en disant que institutrice au féminin, c'est horriblement méprisant, sexiste et insupportable. Et il a raison. Mais il reste qu'il y a quand même un Miro des collèges qui a beaucoup nui à Miro et réciproquement, qui vient sans doute des textes de Breton. Quand on regarde les textes que Breton écrit pour accompagner la série des constellations, dites les constellations de Varengeville, qui sont au cœur de ma nouvelle, on voit qu'il y a cette idée d'une enfance retrouvée à volonté. Et du coup, ça rend très tentant de voir Miro comme un faiseur de bons hommes qui pourrait illustrer. Alors on pourrait imaginer que l'épouvantable atelier des Lumières de Culture Espace dans le 11e arrondissement s'en empare comme pour Klimt et qu'on en fasse des 8 mètres carrés sur des 8 mètres sur 6 qu'on projette devant des gens qui seront déçus devant les véritables constellations, devant ces aquarelles que Jean-Louis Prat expose magnifiquement dans la rétrospective du Grand Palais. Moi, je suis resté très longuement à perdre mon regard dans ces petits morceaux de papier où on voit une écriture et où se dégage dans ces signes tracés par Miro ce que vous disiez, c'est-à-dire une violence, une résistance, un engagement. L'exposition le montre très bien. Donc il est tout sauf enfantin. Il est en 1939, en 1940, quand il peint les constellations de Varengeville, quelqu'un qui est dans son temps, qui souffre, et cette noirceur, cette nuit de Miro, on la ressent très bien, et c'est ce que j'ai voulu raconter.
Vous avez Tristan Tzara, qui était le grand poète que Joan Miró a illustré, disait que Miró avançait sur une corde raide où toute maladresse serait mortelle. Et il est vrai que Miró a pris des risques sans arrêt. Et il a pris ces risques en nous démontrant que, évidemment, la vie est précaire, la vie est peut-être difficile. Il a été très lucide. Il a été très lucide tout le temps. Quand on regarde la montée du fascisme, la montée du populisme dans les années 30, combien il a tout de suite compris le danger qu'il y avait dans cette vie-là. Je serais curieux de voir d'ailleurs la réponse qu'il pourrait donner à l'heure actuelle face à tout ce qui se passe. Il aurait le message juste. Il nous montrerait que, évidemment, le moindre grain de sable ou l'éclat de lumière dont il parlait, qui déclenchait chez lui tout un monde, déclencherait aussi chez lui quelque chose et une réponse parfaitement adaptée à ce que nous vivons. Et Miró a su faire parler avec justesse la raison et le cœur. Il y a une générosité aussi chez Miró. Et ce regard qu'il pose sur le monde, qu'il pose sur ce que nous sommes, la précarité de la vie, que l'on retrouvera jusque la fin avec l'espoir du condamné à mort.
Alors Guilhem, le personnage du roman d'Adrien Goetz, va avoir un regard assez dur au début, un regard peut-être ignorant aussi sur la peinture de Miró.
Oui, mais
il va, tant mieux. Il va évoluer et peut-être nous avec lui. Et il va finir par découvrir ce peintre catalan autrement et notamment dans les yeux du pianiste Alain Planès qu'il a rencontré à Majorque à 84 ans pour de vrai et qui se retrouve donc aussi dans votre roman Adrien Goetz et pour qui Miró est le peintre le plus musical qui existe. Un peintre, poète, musical, sous votre plume, Adrien Goetz. Voilà comment le pianiste parle de la personnalité de Miró. Le regard de Miró était aussi fort que ça, aussi vif pour moi que le regard de Picasso, mais en plus doux et en plus gentil. Une attaque brillante, brève. Les premières notes, puis un largo qu'il faisait durer jusqu'à l'infini. Sa voix était légère et fine, elle aussi. Il n'élevait jamais le ton, je le revois. Quand on lui pose une question, il commence par la répéter, assez lentement, peut-être parce qu'il n'est pas si sûr que cela de son français. Et à la fin de la phrase, il ajoute deux mots, parfois trois, ces petits cailloux. On va écouter la voix de Miró, parlant de son optimisme supposé.
Votre art est un art optimiste. Une toile de Miró, c'est quelque chose qui dispose à la joie.
Oui, oui.
C'est une... Pensez-vous que c'est votre tempérament, votre goût, ou c'est parce que vous voulez faire optimiste?
Non, je suis très pessimiste, mais c'est par cette même raison que, comme je travaille, je vais m'évader de ce pessimisme et j'attends un optimisme.
Oui, parce que lorsqu'on parle du tempérament espagnol, c'est tempérament dramatique.
Oui, d'accord, oui, mais il ne faut pas confondre le tempérament castillan ou andalou, par exemple, avec le tempérament catalan, qui est tout à fait opposé.
Et vous êtes catalan?
Oui, 100% puissant, oui.
C'est ça, parce que lorsqu'on pense à une toile de Picasso,
c'est très différent.
Lorsqu'on voit vos toiles, ça n'est pas le drame, c'est l'humour.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est très différent, la catalogne de la tragédie castillan et andalouse.
Et cet optimisme, vous arrivez à le conquérir en vous moquant un petit peu des gens, j'entends, de vos personnages.
C'est ça, en me moquant de l'homme, oui, de cette marionnette.
Que vous ne voulez pas prendre au sérieux.
Ah non, pas du tout.
Extrait des grands entretiens de Georges Charbonnier avec Joan Miró, c'était au tout début des années 50, Jean-Louis Prat.
Oui, eh bien, c'est vrai quand il parle de deux tempéraments différents. Vous savez, le tempérament du catalan, il est aussi sur sa terre. Il regarde évidemment ses églises romanes, il regarde l'art de Gaudi, mais il est ouvert sur la Méditerranée, il est ouvert sur d'autres mondes. Et chez Miró, il y a toujours eu cette ouverture sur les autres et sur l'autre, sur la poésie. C'est un des rares peintres qui ajoute justement quelque chose qui n'est pas dans la figuration ou dans l'abstraction, mais qui invente ce monde que nous avons mal vu, mal perçu peut-être à son époque. Oui, on l'a reconnu, il a été célébré. Mais je dirais que maintenant, il prend de plus en plus d'importance parce qu'on sent combien il y a là quelque chose de parfaitement juste qui convient à ce que nous sommes maintenant. Et quand il n'est pas opposé à Picasso, évidemment. Picasso, il était très ami. Chaque fois qu'il venait à la Fondation, il lui rendait visite et il aimait le voir. Et Picasso adorait Miró, qu'il a collectionné, puisqu'il y a deux tableaux d'ailleurs qui figuraient dans la collection privée de Pablo Picasso, qui se trouvent dans l'exposition, l'autoportrait absolument superbe, cette période détaïste où Miro s'interroge sur lui-même et sur la réalité de ce qu'il est.
Il y a eu 2-3 rencontres décisives dans la vie de Miro, et notamment celle avec Picasso. Même si leur amitié a connu des hauts et des bas, il y a toujours eu un profond respect des deux. Est-ce que c'est vrai, cette histoire, quand il rencontre pour la première fois Picasso à Paris, qui va l'introduire dans les milieux littéraires et artistiques parisiens, est-ce que c'est vrai que Picasso va lui dire « Faites exactement comme si vous attendiez le métro, il faut faire la queue, attendez votre tour, voyons. » Parce qu'il était trop pressé, Miro, trop pressé d'être reconnu, de réussir à être, oui, vu, perçu dans ce milieu-là.
Non, non, Miro n'a jamais été dans la recherche de la publicité ou dans la recherche de la reconnaissance. Elle est arrivée, et quand elle est arrivée, vous savez, tous les matins, et quand il travaillait, c'était pour inventer un nouveau monde. Donc c'était pas pour nous surprendre, c'était pour se surprendre lui-même. Et quand il invente quelque chose, justement, il part de cette réalité dure, il essaie de la transmettre. Quand il dit qu'il est pessimiste, je dirais qu'il est lucide. Et donc il voit son temps se dérouler, et il le met en évidence ou en exergue d'une façon étonnante. Mais il nous fait participer à quelque chose que nous voyons, mais que nous ne percevons pas. Et ça, c'est le phénomène de tous les grands artistes. C'est ce que disait, vous savez, avec le génie qu'il avait des mots, comme ça André Malraux, lorsqu'il disait « Le génie vient de ce qu'il annexe, non de ce qu'il rencontre. » Et c'est vrai que Miro a beaucoup annexé. Lorsqu'il s'attribue les étoiles, le soleil ou la lune...
Et la musique,
mais il le fait du reste en même temps, Adrien. Il le fait lorsqu'il interroge au moment des constellations.
Voilà.
Mais Adrien Goetz, il y a quand même un mot qui est aussi central dans son œuvre, c'est celui de rêve.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de raconter, ouais. C'est ce que Guilhem, mon personnage, découvre, et découvre grâce à la musique, avec cette rencontre que j'ai imaginée dans la Fondation MAG avec Alain Planès. Alors moi, j'ai la chance d'être ami d'Alain Planès, je sais que Jean-Louis Prat le connaît bien aussi, qui est un merveilleux pianiste, qui vient de sortir ce coffret Debussy extraordinaire. Et la voix de Miro qu'on entendait à l'instant, elle m'est parvenue à travers ce qu'Alain Planès, qui a l'oreille absolue, m'a raconté et retranscrit. Donc j'ai, dans ce livre, qui est une fiction, prêté beaucoup de propos à Planès. Je l'ai souvent entendu raconter Miro. Il est allé chez lui, il l'a connu. Planès était jeune, Miro était déjà très âgé, mais très vif. Et j'ai fait ensuite relire à Planès, et j'ai inventé beaucoup de choses, des choses que je mettais dans sa bouche. Il m'a dit pas un mot à changer, c'est tout à fait ça. Donc voilà, donc c'est une sorte de...
Avec beaucoup de justesse.
C'est une fiction, mais Alain Planès, qui est un témoin, qui a entendu Miro, qui a joué devant lui à Majorque, là où Chopin a tellement souffert, et m'a fait découvrir sans doute cette dimension musicale des constellations et de toutes les œuvres de Miro. C'est vraiment pour moi le peintre qui a le plus de rapport avec la musique.
Justement, un mot de ces constellations, Jean-Louis Prat, qui donne le titre du roman d'Adrien Goetz, Les constellations de Varengeville, qu'il a donc réalisé, peinte pendant la Seconde Guerre en Normandie, où l'artiste avait trouvé refuge avec sa femme. C'est 23 petits formats, parce que faute de toile, c'était la guerre. Miro peint sur des feuilles, entre arabesques et figures stylisées. Qu'est-ce qu'il projette sur ces toiles, sur ces feuilles?
Il projette l'interrogation qu'il a sur le ciel. Mmh. Et l'interrogation qu'il a sur le ciel, c'est de s'accaparer comme ça, et bien à la fois les étoiles, le soleil ou la lune, de nous les faire vibrer, de les faire vivre dans ces miniatures extraordinaires qui font toutes 38 cm par 46 ou 46 par 38, qui sont des merveilles comme ça, et où Miro s'interroge au début de la guerre, après s'être interrogé pendant une décennie pratiquement sur les risques qu'il y avait de voir ce qui arrivait. Il n'a pas hésité, il l'a montré. D'un seul coup, il se met à rêver pour également lui se dire qu'il y a un espoir dans l'homme et qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive qui va le libérer totalement. Et il interrogera cela d'une façon étonnante.
Cette vingtaine de constellations, elle a été séparée. Elles ne sont plus ensemble aujourd'hui quelque part. On a l'impression qu'elles ont toutes beaucoup voyagé, qu'elles se retrouvent à la fois chez des mécènes, dans des fondations privées, dans des musées. Vous en avez réuni combien là pour l'exposition au Grand Palais ?
Il y en a 5. Il y en a 23 dans la série. Elles ont essaimé dans le monde entier. Mmh. Ce qui prouve aussi le besoin peut-être des grands musées, des grands collectionneurs, de s'accaparer comme ça une part de la réalité ou du rêve de Miro, et de se dire qu'il y a quelque chose de si juste là-dedans qu'on ne peut pas s'en passer.
Il faut aller à Varengeville aussi. Elles n'ont pas toutes été peintes, dessinées à Varengeville. Il les commence à Varengeville. C'est le plus beau ciel du monde, Varengeville. Il y a la cabane où Claude Monet est venu peindre, il y a la tombe de Braque, il y a le jardin que Pascal Cribier avait dessiné. Enfin, c'est un lieu extraordinaire pour ça aussi, Varengeville. Il y a une émotion là-bas.
Miro, c'est 70 ans de création et un style en constante évolution. Il a inventé, Jean-Louis Prat, un langage, un alphabet bien à lui, en peinture comme en sculpture. Il avait une imagination plus que créative. Extrait du documentaire d'Arte, Feu intérieur, autour de Miro, sa personnalité et son œuvre.
On travaillait avec Miro d'une espèce d'ambiance presque surréaliste. On avait un espèce de tronc d'arbre, une grande branche.
C'est pas dans l'autre sens, hein.
Ah, comme ça?
Ouais,
ça. Ah non, je croyais.
Bon.
Voilà.
Non, ça va pas.
Là, se passe quelque chose. On fait tout le montage, il manque quelque chose. Et il montre l'endroit qui est, bien sûr, puisqu'on a affaire à une femme. Il se dit, mais une femme, qu'est-ce qu'elle a là, ici là? Bon, je lui pose la question, je lui dis, mais vous voulez quelque chose de végétal? Oui. J'ai une idée, maître. Je dis à un de mes gars, tu vas chez l'épicier du coin, tu vas me chercher un chou. Il a été acheter le chou, on a mis le chou.
Tournez par là. Non, tournez par l'autre, plus à gauche.
Voilà. Voilà, à propos de la sculpture, l'oiseau au plumage rougeâtre annonce l'apparition de la femme éblouissante de beauté. Une sculpture de 1972, il avait aussi l'art des titres et des légendes, Miro. Et cette sculpture, Jean-Louis Prat, c'est un assemblage d'objets, dont ce chou, dont d'abord une grande branche d'arbre, des chaussures, une pierre plate ciselée, une gamelle. Vous l'exposez actuellement dans cette belle exposition Miro au Grand Palais dont vous êtes le commissaire.
Oui, bien sûr, mais vous savez, Miro a réinventé la sculpture. Il a donné un pouvoir aux objets les plus simples, ceux qu'il trouvait en se baladant comme ça, sur le bord de la plage, ou de cet art populaire qu'il avait dans son atelier. Il les accumulait lorsqu'il fait la caresse d'un oiseau aussi, d'une planche à repasser. Le sexe féminin est figuré par une carapace de tortue. Il y a une lunette de Waterdand qui fait le sommet, comme ça. Et puis au-dessus, un chapeau de paille qui va trouer pour faire un regard. Et un oiseau qui est au-dessus, la caresse d'un oiseau. Il a le don de se dire qu'à travers ça, aussi, il permet de retrouver un corps différent dont dépendait la sculpture, qu'il a trop interrogé et qui a risqué très souvent de verser dans la convention ou dans l'académisme. Miro s'en est détaché immédiatement. Et en plus, il l'a fait réaliser ça en bronze. Mais comme le bronze avait une pérennité pour l'éternité, il ne le voulait pas, il l'a peint. Il a mis des couleurs vives dessus. Et il a ajouté quelque chose, un dialogue extraordinairement éblouissant à la sculpture qui avait besoin de cette rupture, de ce changement. Et puis il a su aussi inventer une sculpture où il forme totalement, à partir de la céramique d'ailleurs. Quand il avait dit, vous savez, je veux assassiner la peinture, en 1925, c'était pour se dire que, il n'était pas assassin évidemment, mais il voulait assassiner la convention. Et il fera pareil avec la céramique, et la céramique va le conduire à la sculpture. Et c'est en maîtrisant comme ça quelque chose d'étonnant et de généreux, qu'il a su nous toucher et qu'il provoque probablement pour nous, à l'heure actuelle, quelque chose qui nous dit également ce qu'est l'art contemporain. Il est vivant. Il fait partie de ces artistes qui inventent dans une œuvre ultime un pouvoir considérable à la création.
Et ses œuvres, il les voulait aussi en liberté. Écoutez Miro.
Il faut une sculpture, il faut qu'elle tienne en plein air, en pleine nature. Il faut que la sculpture se confonde avec les montagnes, avec les arbres, avec les cailloux, enfin, que ça fasse un tout.
Même l'insecte qui se pose.
L'insecte qui se pose sur un personnage, sur un bonhomme. Il faut que cet insecte, que cette araignée, que cet oiseau, que ces papillons, ça fasse partie de l'œuvre.
C'est le camouflage.
Mais oui, c'est très certainement c'est le camouflage.
Mais le camouflage jusqu'à l'identification
c'est ça,
même
oui.
avec la nature.
Donc, si vous prenez un avion, vous survolez à une certaine hauteur, il faut que cette structure se confonde entièrement avec son entourage.
Autrement dit, elle n'a pas besoin d'être représentative,
non? Non, pas du tout. Elle a besoin d'être dictée par la nature.
C'est ça,
c'est naturel. Ce qui n'existe pas chez Donatello, par exemple, c'est une structure pour être enfermée.
C'est ça, pas d'imitation,
pas d'interprétation. Ah non, non, pas d'interprétation, pas d'imitation, rien du tout, même si c'est très librement.
Même si c'est très
libre. Pas du
et
tout.
Et à plus oui. forte raison, pas d'expressionnisme.
Ah, c'est ça, oui, à plus forte raison, oui.
J'aime beaucoup comment il répond aux questions, Miro, dans cet échange avec Georges Charbonnier. Il va, on a l'impression qu'il va toujours dans le sens de l'intervieweur, mais en fait, il
oui,
affirme
il
vraiment ses positions.
Et puis ensuite,
exactement.
Il précise.
Exactement.
Et il y a une magie de la terre, Jean-Louis Prat vient de le dire, mais il y a aussi un pouvoir magique des titres d'œuvres. Et ça, c'est très frappant. Et il invente des phrases qui font partie de l'œuvre. La main à la poursuite d'un oiseau, cet extraordinaire tableau de 1926 que moi j'ai choisi en frontispice de mon livre parce qu'il me fascine, et dans une collection privée. C'est un tableau qui a appartenu à Charles et Marie-Laure de Noailles. Et là, il est exposé au Grand Palais. Et je crois qu'il est en train de devenir un des tableaux les plus célèbres de Miro parce que il est en carte postale, on le voit. Enfin, c'est le pouvoir des expositions aussi, c'est de révéler certaines œuvres. Et c'est à la fois un oiseau, un grand ciel bleu, une main qui ressemble un peu à un pied et un titre. Une phrase, c'est du texte aussi, c'est ça que je trouve formidable.
Comme l'oiseau se niche sur les doigts en fleurs, comme jeune fille s'évadant, Jean-Louis Prat, c'est particulièrement marquant avec ses sculptures. C'était aussi un peintre poète, l'importance de la poésie dans sa vie.
La poésie ou la peinture, c'était la même chose pour lui. Et je dirais qu'il a beaucoup travaillé, il a admiré des poètes qui, vous savez, par le pouvoir de leurs mots, qui se juxtapose, qui se surajoute comme ça, donne quelque quand Jacques Prévert écrit le sublime et corrosif, eh bien c'est vrai que il y a là quelque chose de merveilleux. Il est toujours étonné par le pouvoir des mots qu'avait René Char, que pouvait avoir Michel Léris, qu'avait eu Tristan Tzara ou Paul Éluard, et il les admirait. Et il n'a pas hésité d'ailleurs à faire des peintures poèmes dès les années 25. C'est lui-même qui a donné le titre, et où il met véritablement l'écriture au service de la peinture. Et il y a un mélange, si bien qu'on peut interpréter, par exemple, un tableau comme Escargot, femme, fleur, étoile, de 1934, qui est un tableau qui est un chef-d'œuvre qui remet tout en place comme ça dans ces années-là, intermédiaires, eh bien, on peut le lire différemment. Mais le titre où l'écriture se mêle à la peinture d'une façon intime et donne également ce nouveau pouvoir à la peinture que l'on ne connaissait pas jusqu'alors.
On a évoqué ses constellations, on a parlé un peu de ses sculptures, il y aurait beaucoup à dire sur l'ensemble de son œuvre, mais exposé aussi en ce moment au Grand Palais, un triptyque qui est plus rare, peut-être moins connu, c'est moins celui qu'on expose dans les salles de classe, comme vous l'évoquez, comme une boutade aussi, Adrien Beutz. Mais Adrien Goetz, c'est cet espoir du condamné à mort qu'il a terminé, qui lui a pris plus d'une, presque une décennie, hein, Jean-Louis Prat, qu'il a terminé en 74, inspiré par l'arrestation puis l'exécution d'un jeune nationaliste catalan.
Oui, Antigue.
Oui, on voit bien que c'est pas pour enfants.
Hein. Non, c'est pas pour enfants.
Oui. Et là, on voit vraiment aussi l'angoisse, non, d'un peintre devant la cruauté parfois de ce monde, son absurdité.
La cruauté, puis également l'interrogation qu'il porte sur la vie. Vous savez, Miro n'était pas un peintre gestuel quand il agissait, c'était avec une longue réflexion. Et ce qu'il mettait en place, le moindre signe, avait un pouvoir particulier. Et lorsqu'il met cette ligne de vie qui débute et qui s'arrête, et qui met un temps fou à tracer parce que c'était pas du tout... Il dit exactement... On est dans une chapelle lorsqu'on se trouve au milieu de ce triptyque. Il y a quelque chose de profondément religieux presque là-dedans. Mais au bon sens du père, Miro n'était pas quelqu'un qui était croyant. Il interrogeait la vérité et il la voyait d'une manière très, 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 très facilement acceptable, comme ça, avec les risques encourus par l'homme. Mais lorsqu'il met l'espoir du condamné en place, c'est une réflexion très lente. Miro a très peu peint, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a peu d'œuvres, il y a 2600 ou 2700 peintures qui existent de lui, et ça prouve qu'il prenait un temps fou à réfléchir avant de mettre en place. Quand Giacometti dit également que lorsque Miro pose un point, il le met toujours à sa juste place, c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui nous fait dire qu'il a longuement mûri la réflexion avant de mettre un trait ou un point. Et que lorsqu'il le met, eh bien c'est définitivement ce qui va nous faire rêver, nous. Il a le don de nous faire partager ses rêves. Je dirais tant mieux. quelle chance à l'heure actuelle.
À propos de croyances, c'était aussi un peintre ou un artiste qui déconstruisait sa légende et l'art en permanence. Il y a ces toiles brûlées, lacérées, qu'il a réalisées dans la dernière partie de sa vie de peintre, et vous lui consacrez aussi, vous en présentez une toile brûlée dans cette exposition au Grand Palais. Écoutez un dernier extrait du documentaire d'Arte, à voir encore en replay quelques jours, sur cette provocation qu'il avait pris tant de plaisir à réaliser avec le tapissier Joël Proyot.
Un jour, je ne sais pas ce qui lui a pris, peut-être qu'on avait tous les deux pété les plombs. Il dit, écoute Royo, pourquoi pas les brûler aussi? Essence et... Bing bang boum. On se met à brûler des morceaux de tapisserie. Après, on accroche toutes sortes d'objets dessus, des robes, des ciseaux. Bref, une vraie bombe, quoi.
Et puis...
Et voilà que débarque la femme de Miro. Sa femme lui dit, « Mon Dieu, Johan, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Tout était magique comme ça. J'ai dit, « Écoute, Johan, si Mac voit ça un jour, il va te mettre à la porte. » Plus tard, quand Mac est arrivé de Paris, il a dit, magnifique. 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 Alors moi j'ai dit, merci, merci, merci. Merci, Mag. Après coup, Johan m'a dit, tu vois, Royo, tout finit toujours bien. Il était génial.
Et Mag, c'était Aimé Mag.
Aimé Mag avait le génie, vous savez, de la générosité.
Graveur, marchand d'art, qui a créé la fondation Mag près de Saint-Paul-de-Vence et qui l'a beaucoup soutenu, la fondation Mag que vous avez dirigée, Jean-Louis Prat. Ceci est la couleur de mes rêves. Si on devait garder une couleur pour parler de Miro, ce serait le bleu, assurément.
Ah, c'est le bleu, assurément, mais toutes les couleurs sont les couleurs des rêves de Miro. Mais le bleu, lorsqu'il l'isole dans ce tableau absolument étonnant, qui fait la couverture du catalogue d'ailleurs, cette tache bleue, et qu'il écrit minutieusement comme une main d'écolier qui s'attarde comme ça, ceci est la couleur de mes rêves. Oui, il le capte, il nous l'impose, et je dirais qu'il l'impose avec une autorité, une générosité étonnante. C'est un langage nouveau qui inspirera d'ailleurs Magritte lorsqu'il fait un tableau, ceci est une pipe.
Et puis c'est le bleu des yeux de Miro.
Et hein. C'est le bleu, oui.
Important ça, le regard de Miro.
Et le bleu de la Méditerranée.
Merci beaucoup Jean-Louis Prat. Je rappelle que vous êtes le commissaire de cette exposition Miro au Grand Palais. À voir et à voir absolument. À lire aussi, Adrien Goetz, votre roman Les Constellations de Varengeville. Ça vient de paraître aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais. Édité donc en partenariat avec nos camarades du Grand Palais qui organisent cette belle exposition Miro. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci infiniment.